Frères et sœurs en Christ, que la grâce, l'amour, la paix et la joie vous soient donnés de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voici déjà le quatrième jour de cette semaine sainte. Quelle grâce de se ressourcer auprès de notre Seigneur en méditant sur les derniers événements qui ont marqué sa dernière semaine sur la terre. Louange à notre roi. Oui, notre roi est aussi notre berger. Alors en début de cette méditation, chantons le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Et c'est le titre de ce cantique, c'est « Yahweh » dans « J'aime l'Éternel » 970.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Ô mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Ô mon âme, chante mon âme, sans cesse et jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai.
Prions. Notre reconnaissance est grande ô Seigneur, pour ton amour, pour ton œuvre de salut amorcée cette semaine-là et dont nous méditons les effets aujourd'hui. Garde-nous dans ton amour et dans ta grâce. Nous sommes réconfortés par le témoignage de ta parole qui nous assure que rien, mais alors rien ni personne, n'est assez puissant pour nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. En effet, cette parole est celle-ci et nous la prenons pour nous-mêmes, car je suis persuadé que ni les morts, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, notre Père, pour cette promesse si certaine sur laquelle nous pouvons nous appuyer toute notre existence durant. Amen. En observant attentivement le déroulé de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ cette semaine-là, il est parfois difficile de déterminer avec précision ce qui s'est réellement passé. C'est une manière d'avouer que la chronologie du mercredi n'est pas certaine. Qu'à cela ne tienne, je reviens sur un enseignement important de notre Seigneur dans ses derniers moments, quelques heures avant son arrestation, sa condamnation et sa mort. Il s'agit de son exhortation sur la vigilance et la prière. Nous avons lu un extrait hier. J'emprunterai à Marc, l'évangéliste Marc, dans le passage parallèle à celui-ci, la dernière parabole qui illustre l'enseignement du Seigneur sur la vigilance et la prière. Nous allons donc entendre deux lectures. La première dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, versets 34 à 36, et Marc, chapitre 13, versets 32 à 37. Écoutons.
Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez.
Jésus annonce à ses disciples la destruction du temple. Les disciples lui posent la question « Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Marc, puisque nous avons eu recours à Marc rapporte un long enseignement de Jésus sur la façon finalement dont les disciples vont devoir apprendre à vivre en l'absence du Maître. Une forme de testament spirituel, en quelque sorte. Il est comme en train de leur dire, mes amis, ça ne sera pas facile. Des catastrophes écologiques et humanitaires s'annoncent, c'est-à-dire des guerres, des bruits de guerre, la famine, des tremblements de terre, des pandémies, le réchauffement de la planète, et puis une opposition de plus en plus marquée au message de l'Évangile. Oui, cela se manifestera par des persécutions des chrétiens, des trahisons parmi les chrétiens, l'affaiblissement de la foi, et puis un véritable déferlement des gourous qui soient religieux ou en communication ou en économie ou de toutes sortes de spécialités, et qui vont prétendre avoir des solutions à tous les problèmes, ou s'ils n'ont pas de solutions, ont en tout cas les moyens de nous faire oublier toutes nos difficultés. Le monde entre l'ascension du Seigneur et son retour est ainsi. Les disciples doivent le savoir, les chrétiens aussi. Jésus dit, gardez-vous de vous alarmer, cela doit arriver. Et alors, il leur donne cette petite parabole, la parabole du maître qui s'en va et qui disparaît. Dans cette petite parabole, nous dit à peu près ceci, très bientôt, Jésus ne sera plus présent physiquement au milieu de ses disciples. Il va partir et il va les laisser seuls, livrés à eux-mêmes, avec toutes leurs questions, avec peut-être la déchirure et le vide que provoque son absence. Mais sera-t-il vraiment tout à fait absent? Non, pas tout à fait, parce qu'il leur a promis un consolateur. Mais seulement, ils n'auront pas à le voir physiquement et à converser avec lui de manière tout à fait humaine. Il est présent sous une autre forme. Mais voici le plus bouleversant. C'est par cette absence qu'ils vont devenir des hommes et des femmes adultes, libres et responsables. La disparition du maître les éveille à leur pleine dimension humaine. Alors faisons-nous une petite réflexion. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un Dieu qui voudrait garder les siens dans l'infantilisme, les tenir sous surveillance, contrôler leurs pas. Non, le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui s'efface pour ouvrir devant les siens l'espace de leur liberté. C'est cela aimer. Vouloir que l'autre grandisse. Le maître s'en va et il leur confie tout, tout ce qu'il a. Il leur donne tous ses pouvoirs. Toute leur vie désormais est sous le signe de cette confiance et de ce don. Il ne donne aucune consigne sur comment veiller. À eux maintenant de se prendre en charge, de prendre en charge la maison commune. L'Évangile, frères et sœurs, est bouleversant. Jésus s'efface, le Père s'efface pour nous confier toute sa création. Le Père s'efface pour que ses fils et ses filles deviennent adultes, pleinement humains, merveilleusement humains. L'Évangile du Dieu qui s'en va. Dès lors, le temps bascule du côté de l'attente. Le temps qu'ils vivent, quoique enraciné dans un passé riche, leur est redonné comme un temps qui espère. Ce temps nourri d'un riche passé n'est pas tourné vers l'arrière dans la nostalgie comme lorsque nous avons l'habitude de dire de notre temps ou en ce temps-là, le passé est toujours meilleur. Non, c'est un temps tourné vers l'avant. Il y a quelqu'un à attendre. À tout moment, il peut surgir. Quand ? Comment ? Personne ne sait. La foi n'est pas une manière de savoir ce que d'autres ne savent pas. C'est une manière d'attendre, d'espérer. À tout moment, la porte peut s'ouvrir et l'imprévisible peut arriver. Comme dans les récits de Pâques où le ressuscité surgit par surprise, n'importe quand, n'importe où. Alors, chaque instant prend une valeur nouvelle, parce qu'à chaque instant, il peut surgir et nous faire signe. Derrière chaque rencontre, dans le sourire d'un bonheur ou dans la blessure d'un échec. Le Dieu qui s'en va est aussi le Dieu qui vient. Toujours à venir, toujours autre que ce que nous pensons. Chaque instant, l'instant même que nous vivons ici, peut devenir l'instant de cette rencontre. Voyez-vous, Jésus n'est pas une doctrine à laquelle on peut adhérer, mais bien une personne vivante que l'on rencontre et qui nous bouleverse, qui bouleverse notre échelle de valeur. Mais que chacun s'interroge sur la réalité de cette rencontre avec Jésus-Christ. Cela veut dire que la vie est toujours ouverte sur l'espérance. C'est peut-être ce qu'il y a de plus fort dans la parole de Jésus. Rien n'est jamais joué, rien n'est jamais perdu, aucune situation n'est sans issue. C'est la parole de Pâques. Un chemin est ouvert. Une espérance nous fait signe. La vie peut ressurgir quand bien même elle serait en débris. La maison devient ici une maison qui veille. Une petite lumière qui signale une présence. Jusqu'ici, souvenez-vous, dans l'Évangile, la maison suggérait la communion avec Jésus, la convivialité avec lui et avec d'autres. C'était le lieu d'une parole écoutée, une parole échangée, le lieu du repas avec les convives plus ou moins fréquentables. Oui, pensez à la fête chez Lévi. La maison marquait l'enracinement dans la parole de Jésus. Mais ici, l'image se précise. La maison, c'est le lieu d'une veille. À trois reprises, le mot revient. Pour dire quoi? Eh bien, veiller, c'est résister à la fatigue. Résister à l'engourdissement, au sommeil. C'est rester en alerte, capter ce qui se passe. C'est aussi guetter, discerner ce qui vient et même anticiper. Jésus ne nous dicte pas ce que nous aurions à faire. Il désigne une certaine orientation de l'existence, une certaine manière de se tenir devant la vie. Et il fait appel à notre responsabilité, à notre liberté, à notre créativité, à notre amour. À chacun, à chacune, à chaque communauté, de trouver dans les circonstances qui sont les siennes, de trouver des moyens nouveaux et d'imaginer des moyens de vigilance. Alors, veiller, ce pourrait être aussi une forme de résistance contre les antivaleurs de l'évangile de Jésus. Parce que notre société nous offre parfois des valeurs qui sont contraires à l'Évangile. Par exemple, le culte du bonheur personnel, le culte de la performance, le culte du jeunisme, de l'argent, autre chose que les vraies valeurs de l'Évangile. Par exemple, la possession des biens. Oui, je possède, donc je suis. Le culte de la rentabilité, du pouvoir dominateur, du mensonge, de ce qui fait violence à des êtres humains créés à l'image de Dieu. Oui, on peut y inclure le racisme, l'exclusion, la torture et tant bien d'autres choses encore. Veiller, c'est peut-être aussi résister à la paresse, à la passivité. Car notre problème, justement, c'est que bien souvent, nous restons passifs, ou pire, nous oublions que nous attendons quelqu'un. Et alors, nous occupons le temps à autre chose. Mais occuper le temps à autre chose, quand il s'agit du royaume de Dieu, évidemment, c'est grave. Et c'est pour cela que Jésus met les apôtres en garde. Peut-être résister, c'est, oui, résister à être un homme d'un moment, c'est-à-dire celui qui veut tout et tout de suite, celui qui ne sait plus patienter, qui ne sait plus attendre. C'est une autre manière de veiller. Veiller, ça peut être aussi une vigilance dans la prière, car la prière est une manière de retourner à la source et de garder vive cette source en nous-mêmes et avec d'autres. Résister, ça peut être aussi méditer régulièrement la parole de Dieu. Oui, quand on le fait, c'est lutter contre l'hypnose spirituelle. Souvenons-nous, en demandant à Dieu, l'apôtre, ou plutôt l'évangéliste Luc, nous rappelle qu'il nous encourage en tout cas à demander, à frapper, on nous ouvrira, demandez et vous recevrez. Et il dit, dans la bouche même de notre Seigneur, cette parole merveilleuse, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, va lui donner une pierre, ou s'il lui demande un poisson, il va lui donner un serpent. Et si vous, aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Frères et sœurs, derrière cette parabole de Jésus, déjà la mort vient le prendre. Déjà la fin est là. Dans quelques heures, il sera arrêté. Et puis le lendemain, il va être condamné, crucifié, enseveli. Et on pensera que tout est fini pour lui. Mais le maître qui parle ainsi prévient ses disciples de veiller et de prier. Ainsi, ils pourront attendre son retour. Et quand il viendra, il les trouvera éveillés. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Méditons pendant cette semaine et veillons et prions. Amen.
Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi. Faux amoureux de toi, attaché à tes pas. Bible et à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais, courais vers ta maison. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront
Seigneur notre Dieu, tu nous rappelles ce soir qu'il nous faut veiller et prier. Alors nous te prions pour ton Église, afin qu'elle soit visitée par le souffle de ton esprit et qu'elle ne s'endorme pas, qu'elle soit éveillée. Et de la sorte, elle pourra proclamer avec fidélité le message de ton évangile et témoigner ainsi de ton amour. Seigneur, nous te prions aussi pour tous ceux qui nous dirigent, afin que tu leur donnes ta lumière et ta sagesse pour le plus grand bien de tous. Seigneur, nous te prions aussi de diriger vers ton Fils tous ceux qui sont en recherche et qui te cherchent sans savoir. Permets-leur, Seigneur, de te connaître et de te rencontrer. Seigneur, nous te prions aussi d'accorder ta paix à ceux qui passent par l'épreuve. Affermis la confiance des malades et des handicapés. Assiste les personnes âgées. Relève ceux qui sont accablés par les difficultés de la vie. Rends l'espérance à ceux qui sont désemparés. Console ceux qui passent par le deuil. Et relève ceux qui sont couchés. Et révèle ta présence à ceux qui sont seuls. Que ta paix sanctifie nos familles et qu'elles unissent dans une même foi, mari et femme, parents et enfants. Veille conduire ceux qui sont éloignés de toi à la repentance. Seigneur, toi qui nous as tout donné en ton Fils Jésus-Christ, accueille nos prières. Affermis-nous dans la reconnaissance et dans l'obéissance de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Que Dieu, notre Père, que Jésus-Christ, notre Seigneur, et que l'Esprit Saint, notre Consolateur, nous comble de ses grâces, de sa paix et de sa joie. Amen. Et demain, nous nous retrouvons en présentiel à l'église pour le culte de Jeudi Saint. Et ce sera la même chose le vendredi. À très bientôt.